Auditeurice de Nantes ou d'ailleurs, bonjour. Bienvenue sur la planète de la Ligue des droits humains section Nantes, autrement dit de la LDH nantaise. Bienvenue au bar Personne, plus que jamais au croisement de la rue de Coulmiers et de la rue d'Allonville. De la musique, des apéros, des pizzas, du karaoké, du stand-up et une terrasse, parce que rue d'Allonville, il y a surtout du soleil. Et c'est pour toutes ces raisons que nous enregistrons invariablement tous les mois la chronique de la LDH, ici même, au bar Personne. Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler ? Nous allons aborder le thème de la vidéosurveillance. La vidéosurveillance, c'est quoi ? C'est où ? Autrement dit, c'est pourquoi et c'est qui ? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, nous avons avec nous Camille, Alix et Gwen. Mais avant de sauter à vif dans le sujet, rappelons que les adhérents et les adhérentes de la LDH s'agitent de plus belle en ce mois d'avril pour porter les droits des femmes, les droits des enfants, pour lutter contre l'extrême droite, pour aider les personnes à la rue et faire valoir notamment les droits des étrangers. Autant de droits en souffrance pour la défense desquels nous ne serons jamais trop. Camille, Alix et Gwen, pour parler de la vidéosurveillance, vous avez choisi des pseudos. Pouvez-vous nous dire pourquoi ?
Alors, tout d'abord parce que l'intervention se faisait en tant que membre de la Ligue des droits de l'homme et c'était moins la personne qui parlait que faire écho à des débats que nous avions eus au sein de la section qui importait pour cette intervention.
Oui, par ailleurs, on est absolument tous concernés, tous les citoyens, et donc on est là en tant que représentants des citoyens. Et enfin, on souhaite symboliquement aussi attirer l'attention sur le fait que le risque, notamment de la vidéosurveillance, mais pas seulement, c'est un risque d'atteinte à notre vie privée. Et donc on a volontairement choisi de prendre des pseudos pour marquer ce risque.
Très bien, alors on va tout de suite commencer par l'histoire, l'origine avec Alix. Quelle est l'origine de la vidéosurveillance ? Jusqu'à quand remonte-t-elle ?
Alors effectivement, la surveillance remonte à très très loin, voire sans être vue, remonte à avant l'humanité, puisque les premiers prédateurs, pour attraper et dévorer leur proie, il fallait qu'ils passent par cette phase de voir sans être vu. L'humain s'y est tout de suite a tout de suite adopté ces méthodes, non seulement pour chasser, mais aussi pour la guerre, avec tous les systèmes de créneaux, de meurtrières, les forts vaubans, les tranchées, les bunkers. Donc, ça s'est répandu. Et ensuite, ça s'est élargi sur l'idée, non plus de voir sans être vu, mais de mettre en place une surveillance au service d'un contrôle social.
D'accord. Et alors justement, depuis quand a-t-elle été légalisée, cette vidéosurveillance, et pourquoi ?
Alors la vidéosurveillance a été légalisée il y a une trentaine d'années. La première vidéosurveillance qui a été mise en place en France, elle a été à Levallois-Perret. Levallois-Perret par un maire qui s'appelait Patrick Balkany et qui depuis a été condamné à 4 ans et demi de prison pour blanchiment aggravé de fraude fiscale, délit qu'évidemment la vidéosurveillance a beaucoup de peine à identifier.
D'accord, donc c'était plutôt pour contrôler sa population que lui-même.
Alors lui disait que c'était pour assurer la sécurité dans sa ville. Mais force est de constater que les principaux délinquants de la ville n'étaient pas très embêtés par la vidéosurveillance.
Alors justement, à ce propos, la vidéosurveillance, c'est vraiment à la base le maintien de l'ordre, une volonté de maintien de l'ordre ?
Alors pour ça, je remonte à encore une fois avant la vidéosurveillance. Le fantasme totalitaire de contrôler tout le monde, il existe depuis longtemps, il existe dans la religion. Je vais faire un truc qui n'est pas courant à la LDH, je vais citer la Bible. Il y est dit « Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons ». Donc il y a bien cette idée au départ, pour agir conformément à l'exigence de ta société, il faut te sentir surveillé. Et donc ensuite, il y a eu une application concrète qui a été inventée au XVIIIe siècle par les frères Bentham, qui ont vécu en France, qui ont inventé le panoptique. Alors le panoptique, c'est une architecture de bâtiment pour pouvoir surveiller, sans qu'ils le sachent, toutes les personnes qui sont dans ce bâtiment. Ça a été inventé pour les prisons par Jeremy Bentham. Et son frère, lui, a dit que ça peut très bien servir pour contrôler aussi les ouvriers dans les usines. Donc vous voyez qu'on est passé de la proie et de l'ennemi au détenu et puis ensuite à l'ouvrier. Et donc la vidéosurveillance poursuit ce cycle en disant on va vers le simple citoyen maintenant, tout le monde est surveillé.
Et par rapport à... Donc on disait tout à l'heure que la vidéosurveillance a plus ou moins 30 ans. Qu'est-ce que ça a changé ?
Alors, elle a plus ou moins 30 ans en France. Aujourd'hui, on estime qu'il y a environ 1 million de caméras en France dans les lieux publics, dont environ 100 000 dans la rue, dans les espaces publics. Et en fait, si on regarde les statistiques... Depuis les années 80, le niveau de délinquance en France est resté à peu près stable. Or, on peut s'imaginer, si vraiment la vidéosurveillance était efficace, il aurait dû s'écrouler.
Alors pourquoi la vidéosurveillance ?
Alors pourquoi la vidéosurveillance ? C'est bien
s'il
la question.
Pas de, je veux dire, s'il n'y a pas de résultat clair.
C'est bien la question qu'on pose. Il est estimé dans la Gazette des communes, qui est quand même... un journal sérieux, que l'installation d'une caméra dans la rue, c'est 20 000 euros. 20 000 euros fois 100 000 caméras, on est autour de 2 milliards.
Et alors, si on en revient au Capré, on réabordera un peu ce sujet un peu plus loin. Pour Nantes, on en est où justement par rapport à la ville de Nantes, en termes de caméras, de coûts éventuellement ?
Alors, Nantes est venue très tard par rapport aux villes similaires à la vidéosurveillance, puisque en 2013, il y avait encore zéro caméra à Nantes. Elle a pas mal rattrapé son retard, puisque aujourd'hui, pour 2025, il est prévu 330 caméras. Donc, elle n'est pas la seule. Dans l'agglomération, il y a 8 communes de la métropole qui sont raccordées au centre de surveillance urbain, au centre de supervision urbaine, pour employer les termes officiels. Vous voyez que là aussi, il y a un travail sur le vocabulaire pour nous faire accepter ces dispositifs. Il y a 8 communes qui sont raccordées, sans compter les communes qui ont refusé de se raccorder au CSU de la métropole parce qu'elles ne sont pas du même bord politique. Donc, elles ont leur caméra dans leur coin chez elles.
D'accord. Donc, ça, ce n'est pas répertorié dans les caméras
Alors non, les 330 caméras, c'est seulement Nantes. Je n'ai pas le compte de caméras partout dans l'aglo, ouais. Mais il y a donc au moins une douzaine de communes de l'aglo qui sont équipées. Il y en a deux, Couéron et Sainte-Luce, qui prévoient leur équipement cette année.
Yes, il y en a qui refusent encore de les installer.
Alors il reste encore, notamment Orvault, malgré la forte pression de l'opposition municipale, le maire et la majorité refusent pour l'instant d'installer des caméras en ville. Ils estiment que c'est pas opportun. Ils ont malgré tout une politique, un souci de la sécurité de leurs concitoyens très fort. Il y a une convention de rappel à l'ordre qui a été signée en 2024 avec le procureur de la République. Il y a une police municipale non armée. Et bizarrement, alors bon, il y a des aléas qu'on ne maîtrise pas, mais bizarrement, la ville a enregistré une baisse de 24% des délits entre 2020 et 2023.
D'accord. Et comme on peut rejoindre aussi au fait que sur la plupart des grandes villes en France, je crois qu'il y en a seulement 3 aussi qui refusent.
Effectivement, sur les 50 plus grandes villes de France, il n'y en a plus que 3 qui aujourd'hui ne sont pas équipées. Il y a Brest, Saint-Paul-de-la-Réunion et Vitry-sur-Seine, qui sont les 3 dernières des Mohicans, si je puis dire, à ne pas encore être équipées de vidéosurveillance, alors qu'on se rend compte que ça coûte excessivement cher et qu'en plus, ce n'est pas efficace.
Parler de vidéosurveillance, passons à la vidéosurveillance algorithmique. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est simplement l'idée que la vidéosurveillance, c'est bien, mais que toutes les images filmées par les caméras, c'est compliqué, il faut les regarder, ça prend du temps. Pour prendre du temps, il faut des gens, et les gens, ils dorment, ils ont des congés, c'est compliqué. Donc, on peut mettre un robot, un automate, pour essayer de regarder les images à notre place, pour détecter plus vite et pour mieux détecter. Donc le principe de base c'est celui-là et le robot il est évidemment associé à un algorithme qui va calculer si sur l'image il y a quelque chose de problématique ou pas.
Alors il détecte s'il y a quelque chose de problématique, mais par rapport à l'identité des gens, est-ce qu'il peut détecter aussi directement, mettre un visage sur une identité ?
Alors aujourd'hui, c'est officiellement interdit, même dans la loi qui a été votée pour les Jeux Olympiques, qui autorisait l'expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique, c'est interdit. Ça, c'est du point de vue de l'État. On va parler après d'autres points de vue. Donc la reconnaissance faciale est interdite. Elle est possible, mais elle est interdite. Par contre, il suffit d'un geste malencontreux, d'un geste pas prévu. Par exemple, pour les JO, il suffit d'empoigner les grilles du Stade de France pour être détecté comme comportement problématique et que l'algorithme alerte la police sur le comportement.
Moi, j'avais en tête que justement, il y avait eu des exceptions pour les JO sur la reconnaissance faciale.
Alors, il y en a quelques-unes, mais pas immédiatement opérationnelles.
Et est-ce qu'il y a une différence entre intelligence artificielle et algorithme ?
Aujourd'hui, non. Ce qu'on met sous le mot intelligence artificielle, c'est globalement des algorithmes de plus en plus compliqués, mais c'est la même chose. Et donc, c'est bien de l'intelligence artificielle associée à la vidéosurveillance.
Et alors, justement, il y a de plus en plus de vidéosurveillance. Certes, c'est l'IA qui contrôle, mais comment est-ce que tout cela doit bien arriver à un moment donné ? Il y a une base de données. Comment alors, tout ça est traité à l'arrivée ?
C'est traité par des grosses bases de données qui renseignent l'IA sur les comportements problématiques et qui, du coup, permettent de mieux les détecter sur les images. On ne sait pas comment ces bases de données sont alimentées. On ne sait pas s'il y a des erreurs dans les données qui les alimentent. Tout ça est très, très opaque et avec très peu de contrôle citoyen sur le fonctionnement de ces outils.
Justement, est-ce qu'on peut développer un peu sur les risques et dérives ?
Alors les risques, ils sont connus depuis très longtemps. On sait que à partir du moment où une personne est sélectionnée par celui ou celle qui regarde les caméras ou par l'algorithme, il entre dans une logique qui est une logique policière, qui peut aller très loin. Il y a par exemple un Anglais qui s'est vu interdire de quitter l'Angleterre pendant 10 ans. Sans aucune preuve, sur la simple remarque qu'en plein été, il avait un gros pull parce qu'il avait attrapé la grippe. Il était pakistanais et son comportement a été jugé problématique. C'était juste après les attentats de Londres. Et il a été pour ça sur ce qui s'appelle la no-fly list américaine pendant 10 ans.
On a évoqué un tout petit peu, quand on parlait de Nantes, enfin, on a évoqué un peu le coût de ces caméras. Est-ce que justement, enfin, s'il y a des intelligences artificielles, je suppose que c'est aussi pour que ça coûte moins cher, pour, enfin, pour qu'il y ait moins de personnel. Et après, qui est derrière ça? C'est-à-dire, qui est-ce qui vend ces caméras? Est-ce qu'ils sont nombreux? Est-ce qu'on a une idée un peu de ça?
On a une idée, mais assez vague. Ils sont assez peu nombreux. Il doit y avoir une dizaine d'opérateurs en tout, spécialisés dans les caméras à vocation publique. Par contre, il y a plein d'opérateurs privés pour des vidéosurveillances privées, par exemple dans les magasins, voire carrément chez soi. Amazon vend des caméras, Google vend des caméras, et on peut très bien vidéosurveiller chez soi.
Oui, et comme vous le disiez, on en parlait tout à l'heure en antenne, pour 300 euros, les gens peuvent...
peuvent avoir une alarme qui fait de la détection de reconnaissance faciale pour savoir si les gens ont droit d'entrer ou pas.
Sachant qu'on trouve aussi sur le marché... en accès facile sur Internet, hein, des logiciels qui permettent d'aller rechercher les caméras qui sont installées un peu partout dans le monde, y compris chez des personnes privées. Donc le fait d'installer une caméra chez soi, si on ne le fait pas avec, en prenant suffisamment de précautions, nous rend vulnérables au fait que quelqu'un d'autre vienne voir ce qui se passe chez soi.
Alors j'allais y venir aussi par rapport à la différence entre les caméras qu'on peut avoir dans nos rues, les caméras qu'il peut y avoir sur les parkings de supermarchés, les caméras qu'il peut y avoir dans les usines, peut-être aussi avec Camille en termes de droit. Quelles sont les différences? Comment est-ce qu'une caméra de l'ordre du privé peut être utilisée
Alors une caméra privée peut officiellement, là encore, pas être utilisée dans une démarche légale. Quand elle filme l'espace privé, c'est possible. Quand elle filme l'espace public, c'est interdit. Après, tout le monde sait que si on montre des images à un policier, ça peut éventuellement lui servir quand même, même si c'est pas versé à la procédure. Et si le propriétaire de la caméra filme un espace privé, c'est parfaitement autorisé dès lors que, là encore, légalement, les personnes filmées sont au courant qu'elles sont filmées.
Et à noter que sur cet aspect qui concerne la vie privée, on a une liberté fondamentale qui est protégée en France, mais aussi dans la plupart des pays qui reconnaissent les principes des droits de l'homme, qui est le droit à la sécurité et à la vie privée. Et spécifiquement en Europe, s'agissant par exemple des caméras qui seraient installées dans des entrepôts ou sur des chantiers, il y a l'article 88 du règlement général sur la protection des données qui est censé protéger le travailleur des mesures de surveillance qui seraient excessives et inappropriées par rapport à l'objet du travail et qui protège aussi la dignité du travailleur, elle-même protégée par ailleurs.
Et un aspect important, puisqu'on parle de droit, c'est aussi le droit à l'oubli. C'est-à-dire que ces enregistrements-là sont souvent conservés très longtemps, sans forcément qu'il y ait de contrôle de cette conservation.
Merci. On va revoir justement dans quelques instants, un peu plus en détail, le rapport au droit par rapport à la vidéosurveillance.
On peut reprendre, Camille, sur les droits et libertés, justement, et l'encadrement de la surveillance, vidéosurveillance ou vidéoprotection aussi. C'est quoi la différence?
Avant de vous parler de droit, j'ai envie de vous parler un peu de fiction, puisque souvent, ces histoires de vidéosurveillance, ça nous évoque des contextes de dystopie. Par exemple, celle de Minority Report de Philip K. Dick, paru en 1956, qui évoquait déjà le risque d'une dérive prédictive de la police, voire de la justice. Et là, ça nous renvoie directement à un principe du droit qui est celui de respecter les droits de la défense, qui est un principe général en France, mais aussi un principe qui se trouve à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et le risque à avoir des outils qui sont capables de prédire des délits et des crimes. Alors, ces crimes et ces délits seraient réellement amenés à se produire, ce serait très bien, mais à présumer la culpabilité de quelqu'un, on ne respecte plus le principe de la présomption d'innocence. Donc, c'est peut-être le principal risque. Après, on a plusieurs libertés fondamentales qui sont notamment des libertés collectives qui pourraient être menacées par ce type de pratique. On peut penser déjà à la liberté de circulation, une liberté fondamentale sur laquelle nous avons su composer pendant la crise Covid, mais aussi des libertés collectives comme celle d'association, de réunion ou de manifestation qui, si elles se déroulent dans un espace filmé, n'ont nécessairement pas la même marge de manœuvre.
Alors justement, est-ce qu'il y a des lois pour respecter justement ces droits et libertés ? Est-ce qu'elles sont encadrées ?
Alors, s'agissant de la vidéosurveillance algorithmique, le droit est pour l'instant un peu balbutiant. Vous avez évoqué la situation des Jeux Olympiques où il y a eu des expérimentations. Maintenant, on a une loi très récente qui va encadrer l'usage de la vidéosurveillance algorithmique pour des besoins de sûreté dans les transports. Mais d'un point de vue général, ce qu'on a de plus fort et de plus spécifique est récent, et c'est le règlement européen sur l'intelligence artificielle qui est tout juste entré en vigueur. Et par exemple avec son article 5 qui interdit un certain nombre d'usages, notamment quand il s'agit d'évaluer le risque d'infraction ou voilà, finalement d'agir sans contrôle humain sur des mesures de police ou de justice.
Sachant que interdire c'est un sujet, mais il y a une société qui vient d'être sanctionnée pour avoir déployé de la reconnaissance faciale dans l'espace public à l'occasion d'un événement sportif, sans forcément avoir prévenu le public qu'il y avait et de la vidéosurveillance et de la reconnaissance faciale.
Et en France, on peut avoir un exemple récent qui ne concerne pas de la vidéosurveillance, mais de la vidéosurveillance des plaques d'automobile, avec une décision du Conseil d'État qui remonte à novembre dernier, qui dit très clairement que pour pouvoir infliger une contravention, enfin maintenant un forfait post-stationnement pour une infraction par rapport à un véhicule, il faut qu'il y ait un agent humain assermenté qui ait contrôlé la vidéo qui a fait l'objet d'une détection de fraude.
D'accord, merci. Alors là, maintenant, on va revenir un petit peu plus globalement à la LDH. Comment elle se positionne face à ces nouveaux moyens dits de sécurité publique ?
Alors, le premier sujet, c'est que l'argument principal de la vidéosurveillance, c'est de dire que la question n'est pas de voir sans être vu, c'est d'induire un comportement. C'est d'obliger les gens à ne pas faire certains actes parce qu'ils pensent qu'ils sont surveillés. Et du coup, c'est une vraie atteinte à la liberté de penser, d'une part, et à la liberté d'agir, d'autre part. C'est vraiment le risque majeur contre lequel la LDH milite. Le deuxième risque important, c'est la nécessité qu'il y ait un contrôle citoyen de ces opérations pour s'assurer que les droits des citoyens sont respectés. Et qu'on ne soit pas dans une logique d'opacité permanente sur ces problématiques-là.
Et l'objet social de la Ligue des droits de l'homme, c'est aussi de défendre les droits de l'homme et du citoyen. Et là-dessus, le principe de séparation des pouvoirs, qui est à l'article 16, qui suppose que la caméra n'est pas à la fois policier et juge, est quand même quelque chose d'important. Celle de rendre des comptes, comme le disait Gwen, qui est à l'article 15.
Oui, et au sujet des juges, vous parliez, ce sont normalement les seuls à contrôler justement l'atteinte aux libertés.
En principe.
C'est ça, oui.
Oui, effectivement, ça a été mis en évidence par Michel Foucault et Gilles Deleuze, cette problématique. C'est qu'aujourd'hui, on n'est plus sur simplement la problématique de voir sans être vu, mais bien d'imposer à une population, mais à tout le monde, une conduite, une forme de conduite, donc d'empêcher les gens de vivre comme ils en ont envie. Et donc on peut dire oui, mais en France on est en démocratie, tout va bien. En Chine c'est peut-être plus problématique, sauf que même dans des pays qui sont considérés comme des démocraties puissantes, on peut s'apercevoir qu'à l'occasion d'un scrutin, il y a des bascules parfois qui posent question.
Si vous lisez un article du Monde qui est daté de fin mars, vous verrez un long article qui discute le rôle du Conseil d'État pendant la crise Covid, avec une interrogation sur « a-t-il pu réellement juger le respect du droit dans une situation de crise ?» Le Conseil constitutionnel n'a pas pu se prononcer sur certains respects des libertés fondamentales. Et in fine, face à des situations ou à des technologies qui ont devancé le droit, comment peut-on attendre du juge qu'il puisse protéger les libertés ?
Et peut-être on peut y voir une menace notamment sur le droit de manifester, puisque si on manifeste sur l'espace public vidéo-surveillé, on peut se dire qu'on pourrait être catalogué.
Alors c'est un des cas évidents de contrôle, mais ce n'est pas le plus pernicieux. Le plus pernicieux, c'est celui qui, par exemple, pendant les Jeux Olympiques, interdit à certaines personnes d'approcher d'un lieu particulier sur la seule base de leur vidéosurveillance. Et du coup, on porte là atteinte à la liberté d'aller et venir. Et on porte atteinte aussi à la présomption d'innocence parce que tant qu'on n'a pas commis un acte délictueux, il n'y a pas de raison qu'on nous interdise d'aller quelque part.
Pour avoir rapidement parcouru les conclusions de la mission flash d'information sur la surveillance pendant les JO, le rapport se félicitait que seulement 0,56% des cas contrôlés aient fait l'objet d'une interdiction. Ça représentait 6000 personnes à l'échelle de l'échantillon. Bon, à l'échelle de la population française, 0,56%, ça représenterait plusieurs centaines de milliers. Bon, ce qui, là, est quand même mérite une certaine interrogation par rapport au caractère proportionné et démocratique de ce type de mesure.
Il y a aussi une grosse pression des vendeurs pour déployer la vidéosurveillance algorithmique en particulier. Par exemple, il y a une loi qui a donc été votée pour en faire une expérimentation pendant les JO, dont la conclusion devait être versée au mois de mars. Et dès le mois de janvier, le gouvernement a annoncé que cette expérimentation était prolongée. Et elle vient d'être prolongée là, très très récemment, pour 2 ans, je crois, sans qu'on ait encore eu le rapport complet sur l'expérimentation des JO.
Voilà, et pour conclure, peut-être, je suggère aux auditeuristes qui ne l'ont pas encore fait de se plonger et de lire 1984 de George Orwell, qui est un roman absolument précurseur sur le monde dans lequel nous sommes en train de pénétrer et dont on s'aperçoit que aujourd'hui on dit la vidéosurveillance, ben, ça fonctionne pas, on va dans le mur, et ben on accélère, on la rend algorithmique.
C'est sur ces mots et ce constat que s'achève notre chronique. Merci à Gwen, Alix et Camille, mais aussi à Élodie, Nathalène et tout spécialement à Antonin, qui nous a aidés à assurer la technique aujourd'hui au Bar Personne. Ce mois-ci au Bar Personne, toujours au croisement de la rue de Coulmiers et la rue d'Allonville, et bien tout au long du mois et plus spécialement le samedi 12, vous pourrez profiter du Disquaire Day et le dimanche 13 du brunch musical. Et tout au long du mois, en fait, c'était un petit peu comme une amorce avec des points de suspension. Vous avez des activités qui ont été notamment annoncées en introduction, aussi bien le karaoké que la radio, que des concerts, que du stand-up. Si vous avez des réactions, des questions ou des réponses à la chronique, écrivez-nous à nantes@ldh-6france.org. Et d'ici le prochain plateau à 18h30, le mercredi, le premier mercredi du mois de mai, je n'ai pas le chiffre, mais vous l'aurez certainement sur votre agenda, toujours au bar personne, nous vous souhaitons d'ici là de belles écoutes sur les ondes de Jet FM, la station des droits et des libertés.